Bonjour Anna Lasserre.
Bonjour Philippe.
Alors, si les auditeurs étaient avec nous la semaine dernière, je posais une question. Quel était votre lien? Pourquoi vous portiez autant d'amitié à l'abbé Ludovic Aurier? Parce que nous partons en montagne avec votre arrière-grand-oncle, voilà, qui n'était autre que l'abbé donc Ludovic Aurier. Non seulement il fut un savant, mais il inaugura le campement en haute montagne et il participa au début du ski dans les Pyrénées.
Et comme il écrivait beaucoup, il nous a laissé de précieux documents sur cette époque. Les Pyrénées, Philippe, étaient encore une terre à conquérir et à mieux connaître. Dans le massif de Piedrafita, par exemple, il a conquis un sommet auquel on a donné le nom de Pic Gorier.
En 1907, à la demande du ministère de l'Agriculture, il entreprend l'étude de tous les bassins lacustres du versant français. Et en 1929, un premier atlas est constitué.
C'est exact. Il contient la carte bathymétrique, c'est-à-dire une carte qui porte les courbes de niveau et les profondeurs de 210 lacs pyrénéens.
La carte est effectuée sur le terrain. Les travaux de sondage sont souvent pénibles, car au début, il n'y a qu'une corde de chanvre goudronnée et graduée pour mesurer la profondeur des lacs. Et les points de sondage, bien sûr, sont nombreux.
Et oui, ce n'est que par la suite que Ludovic Gorier disposera d'un sondeur Belloc à fil d'acier, muni d'un compteur qui donne des mesures avec une précision de l'ordre du centimètre.
Alors un opérateur et un sondeur naviguent sur un petit canot de toile dont le mât est gradué. Le premier canot a pour nom la tortue, le second l'hippopotame.
Oui, et de la berge, un observateur vise le mât du bateau et fait le point sur la planchette orientée.
En 1920, il étudie le lac bleu de l'Espone. C'est le texte donc que vous allez nous lire tout de suite.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
L'abbé Ludovic Gorier, entre 1900 et 1931, a observé les glaciers des Pyrénées et cartographié 253 lacs. Il a réuni ainsi une abondante documentation sur l'importance des eaux que l'on peut retenir dans les lacs étagés des Pyrénées afin d'assurer en période d'étiage le débit nécessaire au bon fonctionnement des usines. Les résultats de ces recherches sont publiés dans un ouvrage qui s'intitule « Les lacs des Pyrénées françaises ». En 1920, il étudie le lac bleu de l'Espone dans les Hautes-Pyrénées. Le lac bleu n'a dans son bassin, écrit Ludovic Gorier, ni glacier ni névé permanent. C'est principalement la fonte des neiges hivernales qui l'alimente au printemps, les pluies en été et en automne. Les pentes très redressées qui le dominent de toutes parts y font crouler des avalanches dont on retrouve les traces le long de la rive ouest. En quatre endroits de cette rive, on remarque à la base des couloirs d'avalanche, ces petites moraines en fer à cheval qui caractérisent l'action du comblement, particulière à l'avalanche périodique. À mesure que le lac s'abaisse, lorsqu'on ouvre les écluses, ces moraines émergent, isolant de petits bassins d'eau situés à l'embouchure même du lit de l'avalanche. Des bassins semblables se rencontrent dans plusieurs lacs pyrénéens, lacs de Gaube, d'Oho, de Cayaouas, et le mécanisme de leur formation est bien connu. L'apport des eaux de fonte des neiges au printemps, c'est-à-dire dans la période avril-mai-juin, qui est celle de la grande fusion, doit être assez considérable si l'on en juge par les lits des torrents. Ceux-ci, creusés dans des éboulis très meubles, sont très affouillés. Les pluies d'été et de l'automne ruissellent aussi vers le lac, mais avec une certaine lenteur due au fait qu'elles imprègnent d'abord le sol, meubles et gazonné. Le rapport est plus considérable qu'on ne serait tenté de le croire. À défaut d'autres observations, voici celles que nous avons faites personnellement, sans interruption, du 11 août au 11 octobre 1920, pendant notre séjour au déversoir du lac. du 13 août au 9 septembre, le brouillard a été presque constant. Mais il n'y a eu que quelques averses d'orage, dont l'eau s'est imbibée ou évaporée sans ruisseler, du moins visiblement, jusqu'au réservoir. Du 10 septembre au 11 octobre, période pluvieuse, nous avons enregistré au pluviomètre un total de 264 mm 0,8. Il faut noter que ce chiffre très élevé est dû pour plus de moitié à la véritable trombe d'eau du 13 septembre qui a fourni en 30 heures 146 mm 54. Notons aussi qu'à la suite de cette chute, le niveau du lac est resté stationnaire pendant 36 heures bien que l'une des vannes fût ouverte. Notons encore qu'à l'observatoire du pic du Midi, la moyenne normale pour le mois de septembre est de 14 jours pluvieux, donnant une hauteur d'eau de 163 mm. Le bassin du lac Bleu est-il étanche? De tout temps, la croyance des montagnards a été que le lac Bleu avait des fuites. Cette croyance n'est basée sur aucune preuve. Et de plus, elle est fausse. Mais elle s'explique parce que c'est une tendance générale parmi la population ignorante de la montagne d'attribuer à tout lac existant dans la haute montagne les sources jaillissant autour de lui. Rappelons que les cartes officielles ont longtemps fait figurer la célèbre cascade de Gavarnie comme sortant du lac glacé du Mont-Perdu. Il suffisait pourtant de remarquer que la surface de ce lac est à 2560 mètres et la résurgence qui alimente la cascade à 2600 mètres, 40 mètres plus haut. Point n'est besoin d'autres preuves. Le 22 avril 1929, j'explorais la rivière souterraine d'El Rebeco à Villanúa en Aragon. Les montagnards qui m'accompagnaient croyaient que l'eau provenait du lac Dip, situé à plusieurs kilomètres de là, de l'autre côté de la Peña Colorada. Je leur fis remarquer que cette cime haute de 2900 mètres offrait depuis son sommet jusqu'à la grotte située 2000 mètres plus bas, au pied même de la montagne, un considérable bassin versant, constitué par des calcaires criblés de fentes, de gouffres, de puits à neige, dont les eaux ne ressortaient nulle part ailleurs que dans la grotte. Tandis que le lac Dip, situé dans un cirque élevé et restreint, avait un déversoir visible et alimentait le torrent de Hip qui débouche en amont de Canfranc. On pourrait multiplier les exemples de ces légendes populaires que la seule inspection du terrain suffirait à contredire. Toutefois, les conditions topographiques du vallon du Liégou expliquent l'origine de cette croyance. Ce vallon est barré au fond par une haute muraille qui retient le lac Bleu et au pied de laquelle on voit jaillir une résurgence abondante appelée les sources du Chiroulé. Il était donc naturel de supposer, en se basant sur les apparences, que cette résurgence venait souterrainement du lac situé juste au-dessus et à peu de distance. En 1920, l'abbé Ludovic Gorier installe son campement près du lac Bleu, à la demande du ministre Lefebvre, alors ministre de la guerre, qui voulait savoir si le lac Bleu de l'Espone pouvait servir de réservoir à l'important stock de poudre de guerre. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage écrit par Ludovic Gorier, ouvrage posthume, publié par les éditions Privat en 1934 et intitulé « Les lacs des Pyrénées françaises ».
Et voilà ce qu'on peut lire sous la plume de l'abbé Gorier à propos du lac Bleu de l'Espone. En tout cas, le lac Bleu de l'Espone ne servira pas de réservoir à l'important stock de poudre de guerre. Après étude, on découvre qu'il peut atteindre 120 mètres de profondeur. Il sera très difficile de récupérer les poudres. Le projet donc est abandonné.
Pourtant, on avait tout prévu, Philippe. Il était prévu de construire une voie ferrée reliant Bagnères-de-Bigorre à Beaudéan afin d'acheminer les poudres. Et de Beaudéan, les stocks auraient été hissés vers le lac Bleu par câble aérien.
Alors, les sondages des lacs s'opèrent parfois dans des conditions difficiles. Par exemple, en octobre 1907, alors que Ludovico Rié sonde le lac d'Artoust, il neige.
Et la remontée de la ligne de sonde, qui est déjà exténuante à cause des 70 mètres de profondeur, devient une véritable torture quand la neige fond au contact des mains. La main se corde, scie les doigts.
En septembre 1911, au lac d'Eston-Soubiran, il est obligé de percer la glace pour sonder le lac. Les forages peuvent atteindre 3,20 m de profondeur.
Et je peux encore donner, si vous voulez, un autre exemple. Sonder les lacs des Pyrénées n'était pas une sinécure, Philippe. En 1912, alors qu'il sonde le lac glacé du port de Haut, en Haute-Garonne, la tortue, donc le petit canot, qui a déjà fait les campagnes d'Ossau et de Cotteret, est coulée par la banquise une nuit d'orage.
Oh là là. Et pour tous ces travaux, en janvier 1929, le général Nollet remet à l'abbé Gorier, dans le cadre de la Sorbonne, la grande médaille d'honneur de la Société de topographie de France. Vous devez en être un peu fier quand même, Anna, puisque c'était un membre de votre famille, c'est un grand-oncle.
Oui, un arrière-grand-oncle.
La semaine prochaine, nous irons à Bagnères-de-Bigorre, chanté en vers par un médecin, Narcisse Gallois. Ah ben voilà.
Oui.
Mais la musique aussi, c'est des écrits, c'est des textes.
Voilà, on change de genre littéraire.
Exactement. À la semaine prochaine, Anna.
À la semaine prochaine, Philippe.